Je n'en suis pas aussi sûr, car à bien réfléchir, le libellé que finalement Monsieur l'abbé Laurence m'a arraché il y a quelques jours n'est pas très heureux. C'est du jargon, et j'ai commis, en lui donnant cet intitulé, une faute que je ne manque jamais de reprocher à mes étudiants. Et il faut le regretter, seulement, voilà, j'ai proposé ce titre, et il est devenu pour moi une tunique de Nessus. Je ne peux pas l'arracher, et donc il va me falloir essayer de définir ce qu'il faut entendre par valeur conceptuelle. En réalité, c'est déterminer dans quelle mesure ces mots de patrie et de nation ont pu offrir un moyen d'identification pour des personnes, pour des pays, et donc de mesurer leur force d'expression. Dans les temps anciens, ces mots ont-ils déjà la force émotive ou répulsive que nous leur connaissons? D'un côté, l'enracinement dans un espace géographique déterminé que double le poids des générations dont on veut se réclamer. De l'autre, l'attitude qu'adoptaient déjà les civiques grecs qui, pour dépasser les antagonistes, se voulaient citoyens du monde. Ce sont des observations très, très connues, somme toute. Et ce que je voudrais vous présenter, ce sont simplement des jalons de réflexion. Car le Moyen-Âge, c'est une époque considérable. Ça nous mène de 476 à la découverte du Nouveau Monde. Et je dis toujours que, par comparaison avec les temps modernes ou l'époque contemporaine, ça représente une période de changement aussi profond, voire beaucoup plus profond. Et là encore, c'est très imprudent de ma part de vouloir embrasser l'ensemble de cette période, puisque, somme toute, je ne connais guère qu'une période du Moyen-Âge, c'est le Haut Moyen-Âge, et la période où, par définition, il n'y a plus de pensée philosophique. Je m'arrête quand la pensée véritable s'exprime de nouveau. Alors, au fond, je suis très mal armé pour me lancer. J'ai donc essayé un petit tour bibliographique, et comme toujours d'ailleurs, je dois avoir du retard, car je note que l'historiographie romantique, post-romantique, est profondément marquée par le principe des nationalités. C'est la fameuse affaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et j'avouerai que ce droit des peuples que j'ai souvent trouvé plus ou moins sous-jacent pour expliquer l'histoire, certains aspects de l'histoire du Haut Moyen-Âge me révulse parce que je n'en ai jamais trouvé la preuve. Dans les textes de l'époque, dans les démarches de l'époque, je ne crois pas, tout au moins. Et nous sommes là devant un phénomène très, très curieux, au fond, de voir comment des historiens ont essayé de plier leurs sources à des conceptions beaucoup plus récentes, des conceptions totalement étrangères aux préoccupations des gens du Moyen Âge. Un petit peu plus près de nous dans le temps, je me suis reporté à Ferdinand Lotte. Ferdinand Lotte qui, au soir de sa vie, alors qu'il proposait des synthèses sur l'origine de la France, dans, notamment une synthèse dans la collection de chez Fayard sur la grande série historique, Ferdinand Lotte s'interroge sur la formation de la nation française. Et sa démarche première et de déterminer ce qu'est une nation. Et il soumet à sa critique les théories abstraites qui ont pu être présentées depuis un certain temps, depuis la période qui précède immédiatement ou qui suit la guerre de 14, qui voit malgré tout des nationalités s'affronter d'une certaine façon avec force et qui voit également l'Europe se déchirer. Et ceci va laisser des traces très, très durables, des traces que nous redécouvrons actuellement, puisque, enfin, je n'insiste pas plus, mais nous sommes dans la situation des traités, des plénipotentiaires qui devaient élaborer les traités des années 19. Oui. Et il se penche sur les théories abstraites qui mettent en avance les notions de race, les notions de langue, et plus ou moins abusivement, on attache à la mise en œuvre de ces théories l'appellation d'analyse allemande, la vision française accorde une place très importante à la perception proposée par Renan dans sa conférence célèbre « Qu'est-ce qu'une nation ?». Et finalement, Lotte va conclure que la nécessité d'une communauté de race et de langue est inéluctable pour former et maintenir une nation. Et il utilise pour justifier ces déductions les exemples suisses et les exemples belges. Exemple suisse en insistant sur la force que représente l'ensemble alémanique dans la vie de la Suisse. Et cette analyse vient, dans quelque sorte, de recevoir une confirmation si l'on songe au fameux référendum sur l'entrée de la Suisse dans l'Europe. Ce sont finalement les communautés alémaniques qui ont pesé dans la décision. À l'inverse, La Belgique nous met en présence du poids de la communauté wallonne. Et c'est un poids qui, de nos jours, est remis en cause du fait de la montée numérique des Flamands. Mais, et ici je le note parce que Lotte n'a pas insisté sur ce point, le facteur qui maintient ce pays un peu disparate, singulièrement disparate, c'est le facteur de la royauté. Et il faudra peut-être revenir sur ce point. Mais si nous allons un petit peu plus loin dans le temps, enfin si nous nous rapprochons plus exactement de la période, les tendances actuelles pour les périodes qui me sont familières, mettre l'accent sur les questions de personnalité des lois. Et ce sont des questions extrêmement importantes puisque nos pays vivent déjà d'une certaine façon sous le régime de la personnalité des lois. C'est-à-dire qu'on remet en cause l'idée de territorialité. C'est-à-dire que vivant dans un pays, on est soumis à la loi, à la réglementation de ce pays. Pour la France, il suffit simplement de prendre le régime de la sécurité sociale. On accepte, enfin, je n'ai pas besoin d'insister, mais on accepte dans les hôpitaux des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui vivent sous le régime de la polygamie. Vous voyez toutes les conséquences que cela entraîne. Normalement, nous sommes monogames, enfin, et qu'un Français, je dirais, d'origine, essaye de se mettre à la polygamie, ça pourra poser des difficultés. Mais il ne faut pas désespérer de modifications ultérieures, n'est-ce pas? Bon, alors, donc, voilà un aspect. Second aspect, lié à nos sources, qui visent, malgré tout, les couches supérieures de la société. On voit certains lignages se montrer fiers de se rattacher à des origines romaines, à des origines de la noblesse sénatoriale, à l'inverse, d'autres se vanteront de tirer leur origine de l'aristocratie germanique. Et l'idéal, c'est la fusion que représentent d'une certaine façon les pipinides, puisqu'ils ont un double courant derrière eux, n'est-ce pas? Si maintenant nous faisons un saut dans le temps vers une période, au fond, que je connais de plus en plus mal, dont je mesure que je la connais bien mal, c'est celle du bas Moyen-Âge. Je remarque en particulier chez les spécialistes de la sigillographie, de l'emblématique, à quel point les grands feudataires ont soin de revendiquer certaines des prérogatives de la souveraineté. Des prérogatives qui, normalement, leur donnent une assise indépendante du royaume auquel ils appartiennent. Et il est très surprenant de constater que de nos jours, dans l'approche qui est faite de l'apparition de cette nouvelle Europe, de ce qu'on croit être la nouvelle Europe, faire des prédictions actuellement, c'est bien difficile. N'est-ce pas? C'est de voir chez certains, je ne donnerai pas de nom, mais enfin, plusieurs pourront, je dirais, reconnaître pas mal de gens, mais chez certains qui ont été d'obédience marxiste ou qui ont été profondément marqués par les schémas marxistes, de voir que maintenant, il s'attache à ce que j'appellerais une école écolo-historique, n'est-ce pas, avec, je dirais, une approche qui remet en cause certains facteurs d'unité nationale. Ces différentes approches prouvent qu'il sera certainement très difficile de proposer une synthèse. Ça n'est pas mon propos. Je suggérerais des jalons procédant d'une réflexion sur les sources, en ayant toutefois présent à l'esprit que le Moyen-Âge voit naître la langue française. Et pour mesurer le chemin parcouru, j'évoquerai deux réactions bien différentes. Celle de Rutilius Namatianus et celle de Joachim du Bellay. Probablement originaire de Toulouse, Rutilius Namatianus, qui a été préfet de la ville de Rome en 414, nous a laissé un récit versifié de son voyage de retour en Gaule, voyage accompli à la fin de l'année 417. Et c'est dans ce récit que l'on trouve l'un des hommages les plus beaux qui soient à la grandeur romaine. Et ici, je me réfère au jugement de Jérôme Carcopino. Ô Rome, tu as donné une unique patrie à des peuples divers. Tu as été la bienfaitrice des injustes que conquit ta domination. En offrant à tes vaincus le partage de tes droits, tu n'as fait qu'une ville de ce qui était le monde entier. Je citerai, je vois tout le texte latin, Fecisti patriam diversis gentibus unam, profuit injustice te dominante capi, domque offers victis propria consortia juris, urbem fecisti quod prius orbis erat. De Joachim du Bellay, je citerai maintenant le 31e sonnet des regrets. Oh, il est bien connu. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et j'insisterai sur la question « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée ? En quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison ? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. » Et ici, j'attirerai votre attention sur le mot « province ». Il ne faut pas donner le sens, je dirais, un peu actuel d'attachement local. La provincia, chez un homme comme du Bellay, n'est-ce pas, c'est une unité très forte, c'est une unité à valeur politique, institutionnelle. « Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine. » C'est du Bellay qui a également versifié sur les antiquités de Rome et qui écrit plus de 1100 ans, n'est-ce pas, après Rutilius. Et son attitude vis-à-vis de la Rome éternelle est bien différente. Rutilius a deux patries, celle de ses origines et Rome, alors que du Bellay débute le 9e sommet des regrets ainsi. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Je suis un peu confus de vous rappeler ces textes, mais au fond, je les avais un peu oubliés. J'ai eu plaisir à les relire. Or, c'est-à-dire maintenant, comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruel France, France, répond à ma triste querelle. C'est un appel charnel qui émeut indéniablement, enfin qui m'émeut. Ça ne serait peut-être pas le cas de tout le monde, des gens qui font du rap, je suppose, ou du tag. Mais c'est un appel qui s'explique par une très longue évolution et qu'il faut essayer d'interpréter. Les concepts de patrie, de nation, peuvent-ils nous aider dans cette recherche ? Ou ne faut-il pas se tourner vers une autre direction ? Sans entrer dans le détail des lois de la phonétique historique, je noterai que patrie, nation sont les transpositions directes dans notre langue des formes latines patria et nation. Et un rappel sur leur étymologie. Leur sens premier permettra peut-être de mieux saisir la portée qui leur était accordée au Moyen-Âge. Patria, substantif féminin, correspondant au féminin de l'adjectif patrius, procède par le canal du latin pater, du grec pater, de l'indo-européen. Et nous trouvons une correspondance en sanskrit. Je me suis un petit peu lancé dans les grammaires comparatives et historiques d'Erdou et Beyeb. Je me suis prudemment, retiré. Car c'est un monde pour lequel je ne suis probablement pas fait. Mais ce que je retiendrai, c'est qu'à la différence des mots parens ou encore génitor qu'on utilise tellement maintenant, de nos jours on parle des géniteurs, on le réservait jadis uniquement aux chevaux, maintenant on n'hésite pas à l'utiliser pour les parents. Ce qui relève de la plus grande élégance, n'est-ce pas? Bon, ce sont des termes qui mettent en valeur, je dirais, l'aspect physique de la paternité, alors que pater a une portée sociale. Ce qu'on m'a appris dans cette maison, c'est que le père, c'est le chef de la maison à Rome, l'un des représentants de la suite des générations. Et ceci est bien rendu par le nom de Jupiter, où l'on trouve pater, en dialecte ombrien. Il n'est donc pas indifférent de noter qu'il n'y a pas d'équivalent de patria procédant de mater. Et ceci va très bien avec ce que nous savons des institutions romaines où c'est la parenté agnatique qui triomphe. C'est-à-dire que la patria, c'est le pays paternel, avant d'être de façon indifférenciée le pays natal. Avec nation, nous sommes en présence d'un substantif également féminin, mais qui a une racine verbale, du déponent nascor, naître, être mis au monde. Le sens premier de natio, c'est donc naissance. Et le dictionnaire d'Ernoux et Meillet insiste sur le fait que dans la langue rustique, le mot a un sens concret. Il désigne la portée d'un animal. Et ceci aide à comprendre qu'ensuite, le terme a été utilisé pour désigner un ensemble d'individus nés en même temps ou dans un même lieu. Plus tard, dans le latin d'Église, on emploiera indifféremment les gentes ou les nations pour traduire pour rendre ces populations païennes par opposition au peuple de Dieu. Et ceci est notamment illustré par Isidore de Séville. Isidore de Séville qui transmet au monde médiéval un bilan de certaines connaissances de l'Antiquité, ce qu'on doit retenir. Et Isidore désigne ainsi les Assyriens, les Mèdes, les Perses, les Égyptiens, les Grecs, qui se sont successivement détruits. Le même Isidore utilise le mot « patria » pour expliquer l'un des sens du mot « frère ». Ensuite, on parle de frère par la parenté, pour ceux de la même famille. de la même patrie. Ce que les Latins expriment par le mot de paternité. Quand une race se répand en foule nombreuse à partir d'une même race. Ces observations nous mettent en présence donc d'un vocabulaire ayant une signification concrète, toujours très concrète, et même si certains auteurs latins lui donnent une signification abstraite, une signification émotive, cette portée, me semble-t-il, va toujours se maintenir au Moyen-Âge et essentiellement dans cette période que je connais. La patria, ce sera le pays au sens vague et général du terme. C'est ainsi que l'utilise Grégoire de Tours dans le prologue du livre 5 de son Historia Francorum. Il rappelle que Clovis a tué des rois ennemis, écrasé des gentes, c'est-à-dire des nations malfaisantes, et conquis des patries. Des patries au pluriel. Et ceci, malgré tout, nous entraîne vers une perception plus exacte. La patria vise une région souvent bien déterminée, c'est-à-dire l'équivalent d'une provincia. Et ici, je citerai un capitulaire de Pépin le Bref pour l'Aquitaine de 768. Au chapitre 10, nous lisons que tous les hommes et leurs lois, aussi bien romains que saliens, c'est-à-dire que francs, et que celui qui vient d'une autre provincia, vivent conformément à la loi de cette patria, de cette patrie, donc équivalent de provincia et de patria. Aux années 857-867, un moine de Landévennec compose un poème alphabétique, un hymne alphabétique, en l'honneur du saint fondateur de son abbaye. Et il déclare à la 17e strophe que la rosée de sa parole, c'est-à-dire de Saint-Guénolé, s'épanche sur Gralon, dux patrié, ce que je traduirais par chef de la patrie, probablement la Cornouaille, n'est-ce pas? Et donc, ce chef, comme un champ débarrassé d'épines, produisit aux fruits du centuple. Un petit peu nettement plus tard, aux années 1044-1047, la conscience de la Bretagne ressort des actes instrumentés par les moines de Marmoutier, alors qu'ils reçoivent beaucoup de donations dans ce pays. Et dans une charte de donation d'un petit village près de la frontière du Couesnon, un homme se qualifie de patria brito, n'est-ce pas? Et ce souci qu'ont les moines à la demande des donateurs de préciser l'appartenance des personnes ou des biens donnés à telle entité géographique correspond à quelque chose qui a une histoire sur laquelle d'ailleurs je reviendrai, mais c'est le fait que une partie de la Bretagne porte depuis le VIe siècle ce nom qui n'est pas son nom originel, alors qu'une autre partie qui correspond au comté de Rennes, de Nantes essentiellement, regroupe
des pays qui n'en faisaient pas partie. Qu'un chroniqueur, enfin qu'un analyste plutôt, des années 875-877 a voulu appeler Nova Britannia pour marquer qu'il s'agit d'un territoire annexé au royaume breton. Et cette preuve, je la trouve dans toute une série d'actes instrumentés au 11e ou au 12e siècle, où par exemple, quand on énumère les témoins d'une donation d'une forêt dans le comté de Nantes, on cite les Nantais, les Procérès, c'est-à-dire les grands, et ensuite on parle des baronesses forensiki, c'est-à-dire des seigneurs étrangers. Or, ces seigneurs, je peux les localiser, certains sont, je dirais, de ce que l'on appellerait la Basse-Bretagne. Plein douzième, dans une concession en faveur de l'abbaye de Saint-Mlaine, une abbaye près de Rennes, on indique que si l'abbé se rend en Bretagne, c'est donc que Saint-Mlaine n'est pas en Bretagne, il sera reçu à sa sauveur de Guingamp, comme s'il était chez lui. Donc, n'est-ce pas, le sentiment d'appartenance très, très précise et la notion de patrie. Or, c'est un pays qu'il s'est acharné à soumettre. On sait de quelle façon il a forcé les Saxons à se convertir au christianisme, et Dieu sait si on le lui a reproché depuis. Donc, n'est-ce pas, la patria, c'est une entité territoriale bien, bien précise, et dans la suite, cela correspondra à ce qu'on appelle une principauté territoriale, bien souvent. Si maintenant, nous nous reportons au terme de natio, nous voyons qu'il pourra s'agir successivement des générations qui se suivent, de personnes de statut différent ou de régions d'origine. Je n'insiste pas sur la suite des générations, puisque, somme toute, nous nous trouvons devant l'utilisation classique du latin. Pour l'idée de personnes de statut différent, je me référerai au formulaire de Marc Ulf, un formulaire qui nous introduit dans la région parisienne ou la région de Meaux, à la fin du 6e, au début du 7e. Toujours est-il que dans un modèle de privilège d'immunité pour une église cathédrale, on distingue les libres, les serfs et autres nationes, comment traduire nationes, n'est-ce pas, nationaux, établis sur les terres de la dite église. Un diplôme de Louis le Germanique peut peut-être aider puisqu'il vise les hommes libres ou serfs de quelque nation qu'ils soient. C'est-à-dire que nous nous trouvons toujours ici dans le domaine de, d'une certaine façon, de la personnalité des lois. C'est pas ce domaine que les Carolingiens ont respecté pour ménager ces territoires beaucoup plus qu'on ne le croyait. On respecte les autonomies locales dans la mesure du possible, car le dépassement de ces autonomies se fait par l'appartenance au populus christianus. C'est ça qui est, d'une certaine façon, l'un des grands fédérateurs de l'Empire. Et je ferai ensuite un saut dans le temps. Un saut, car il est bien connu qu'à l'Université de Paris, la faculté des arts comprend 4 nations. La française, la normande, la picarde et l'allemande. L'allemande qui, jadis, était la nation anglaise. Mais il y a eu quelques petits problèmes, enfin, quelquefois, n'est-ce pas, qui expliquent pour partie la naissance d'Oxford et de Canterbury, n'est-ce pas. Ces nations sont divisées en tribus qui comprennent des diocèses et des pays étrangers. À la nation de France est rattachée plus ou moins étroitement l'Espagne, l'Italie, les pays d'Orient. À la nation d'Allemagne, l'Allemagne, la Pologne et les pays du Nord. Et c'est important, je crois, de noter cela parce que si la langue de l'université, à l'époque c'est le latin, c'est évident, nous trouvons malgré tout le témoignage de l'importance de la langue maternelle. Car ces étudiants sont bilingues, plus ou moins bien bilingues, n'est-ce pas? Et il faudrait mener une enquête, elle a déjà été entreprise, mais une enquête qui serait délicate, car au moment où le français, comme d'autres langues, s'affirme de plus en plus, nous nous trouvons confrontés à la guerre de 100 ans. Une guerre qui va avoir pour conséquence que les universités françaises sont moins fréquentées. Donc, qui vont profiter aux autres pays, tout le développement des universités, notamment vers l'Est. Alors, pour compléter ce survol, il aurait fallu se lancer dans une enquête justement sur ces langues et notamment sur le français. Mais là, j'avoue que ça relève, je dirais, de spécialistes, ce dont je ne suis pas. Alors, j'ai recouru à quelque chose d'un peu dérisoire, c'est-à-dire que je me suis reporté au dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e siècle de Godefroy. Bon vieux procédé qui, pour nation, donne des exemples témoignant des sens que j'ai analysés en latin, naissance, extraction, rang, descendance. Pour le mot patrie, ai-je mal consulté, je n'ai trouvé aucune référence, mais j'ai constaté à l'adjectif patrial, avec le sens, j'ai constaté, si vous voulez, la présence de l'adjectif patrial avec le sens de paternel, patriotique. Encore que pour ce dernier sens, les exemples proviennent de textes des XVIe siècle. Il me semble que c'est vers la fin du Moyen-Âge, le 16e, qu'il y a indéniablement une cristallisation, un sens qui se rapproche de celui que nous lui prêtons plus ou moins consciemment. Et ici, je reviendrai à Dubélé. Dans la défense et l'illustration de la langue française, qui proclame le devoir en quoi il est obligé à la patrie, c'est-à-dire la France. Et voilà ce que ce devoir lui fait conseiller à celui qui devra écrire au poète futur. Lis donc et relis premièrement Feuillette de main nocturne et journal, les exemplaires grecs et latins. Puis me laisse toutes les vieilles poésies françaises, aux Jeux floraux de Toulouse et au Puy de Rouen, une confrérie littéraire normande, n'est-ce pas? Comme Rondeau, Ballade, Virelet, Chants royaux, Chansons et autres telles épiceries qui corrompent le goût de notre langue et ne servent sinon à porter témoignage de notre ignorance. C'est dur, malgré tout. Pour la période que j'aime bien, je reconnais que, malgré tout, j'ai été formé à une certaine école du goût, et que je souffrirais peut-être de la fréquentation d'une certaine société médiévale, surtout peut-être de la fin du Moyen-Âge, encore que je ris quand je lis la farce de Maître Patelin, mais c'est un peu gros à certains moments, c'est indéniable. Mais par-delà, je vous dirais ces observations un peu amusées, c'est malgré tout au Moyen-Âge que la France doit sa naissance, autour de réalités moins abstraites que celles que sont devenues les notions de patrie et de nation. Et je voudrais maintenant essayer de déterminer, alors je ne serai d'ailleurs pas très original, quel a pu être cet élément catalyseur. Rutilius porte sa foi à la patrie romaine, du Bellay à la patrie française. Comment une telle substitution a-t-elle pu se produire? Trois exemples peuvent aider à poser le problème. Le premier sera celui de l'Espagne wisigothique, le second celui de ma chère Bretagne et le troisième celui de la France. Pour l'Espagne, j'exprimerai d'abord que je dois beaucoup à l'ouvrage de Suzanne Teillet, D'égo à la nation gothique, les origines de l'idée de nation en Occident du 5e au 7e siècle. C'est une étude très fine des sources narratives, des sources historiques, mais également de certains éléments du discours diplomatique et en particulier de la titulature. Et il y a un jeu extrêmement séduisant qui nous mène de l'une à l'autre formulation. Les Goths apparaissent dans l'histoire comme des gens hostiles, n'est-ce pas ? Et c'est une réaction à peu près unanime. Puis progressivement, un retournement intervient, qui est le fait de Polorus dans ses histoires. Pour Salvien, les Goths sont les instruments de la colère de Dieu, alors que chez Sidoine Apollinaire, il y a une recherche de coopération avec les Goths, et ceci amorce un changement qui va se concrétiser lorsque les Goths seront définitivement installés en Espagne et surtout quand le centre de leur royaume va abandonner Toulouse pour se fixer à Tolède. Ils sont toujours ariens, mais on les considère différemment, comme l'ont été les Ostrogoths en Italie, qui étaient également ariens et qui arrivent à restaurer une certaine conception de la romanité, qu'il suffit de se référer à l'œuvre accomplie par Cassiodore au service du roi Théodoric. Tout ceci est remis en cause par les entreprises de Justinien. Reconquête de l'Italie, installation d'une tête de pont en Espagne. Et là, on constate que finalement, ces populations ont plus ou moins bien accueilli le libérateur, celui qui les réintégrait au sein de l'Empire. C'est-à-dire que commence à intervenir cette fusion entre les Goths et les autres populations constitutives de l'Espagne. Les Goths qui monopolisent le pouvoir, qui vont se convertir au christianisme. Mais pour un Isidore de Séville, si le roi est encore Rex Gothorum, plus tard, il deviendra Rex Hispaniae. Les sources du 7e postérieures à Isidore, et notamment les sources françaises, enfin les sources gauloises, s'intéressent beaucoup à ce royaume. On parle de Rex Hispaniae alors que pour la Gaule, on parle de Rex ou de Reges Franco-Rome. Et c'est la preuve que finalement ces rois désormais incarnent l'Espagne. Et Suzanne Théier y voit la preuve d'une réussite éclatante. Je serais toutefois conduit à introduire une nuance très, très sérieuse, car cette réussite n'a pas duré. L'Espagne s'effondre devant l'islam en 711 et avec une rapidité extraordinaire. Alors que la Gaule, qui est dirigée par un bâtard pipinide, n'est-ce pas, va réussir à bloquer ce... Bon, je n'entre pas dans le détail, c'est assez compliqué, assez discuté. Donc voilà un exemple d'unité, n'est-ce pas, qui propose au fond un système d'attachement différent de celui de Rome. Je me tournerai maintenant vers l'exemple de la Bretagne. Et alors, on dira que vraiment mon patriotisme local me fait déraisonner, une fois de plus, que je tire les choses à moi, surtout que nous n'avons, pour ainsi dire, aucune source pour cette période. Et pourtant, je ferai remarquer que nous nous trouvons là devant un phénomène extrêmement intéressant. C'est celui de populations immigrées qui, depuis la fin du IIIe siècle, passent de l'île de Bretagne sur le continent et qui vont imposer un changement de nom. Créer ce que j'appellerais un royaume. Les sources parlent de royaume breton. Seulement, ce royaume n'accédera véritablement à la dimension que nous lui connaissons qu'à l'époque carolingienne, et en intégrant les comtés de Nantes, les comtés de Rennes, qui ne sont pas bretons, n'est-ce pas, d'origine, où on n'a pas parlé breton. Bien. Et ceci s'est fait en même temps qu'apparaît la Francia Occidentalis. Ce nom, donné depuis 843 à la partie ouest de la Gaule, c'est pas cette région qui avait été dominée depuis Clovis par des Reges Franco-Romains. Et aussi bien les Carolingiens que les Capétiens garderont cette dénomination. Alors que depuis un certain temps déjà, le pays a des idiomes romans, et notamment un idiome au cœur du royaume qui sera le français. Et ceci va se traduire avec toujours du retard, car les administrations sont souvent des conservatoires de tradition, par l'instrumentation pour la première fois en français d'un acte royal en 1254, en décembre. Et je note que dans cette charte, Louis IX notifie un accord intervenu en sa présence entre la reine de Navarre et le comte et la comtesse de Bretagne. Tiens, les Bretons sont là de nouveau, n'est-ce pas? Et c'est dans cette charte que Saint-Louis s'intitule « Roi de France ». On n'a pas traduit « Rex Francorum », « Roi des Français », c'est beaucoup plus tard qu'on fera de la traduction mot à mot. Alors, décalage. Mais je noterai également que ce changement coïncide avec tout un travail juridique qui est le fait des canonistes et des romanistes qui mettent au point la théorie de la souveraineté pour définir les rapports du roi de France avec l'empereur. Le roi de France qui est l'égal de l'empereur, n'est-ce pas ? Et les textes de réflexion parle d'ailleurs du Rex Francier. Je cite par exemple tel texte, je crois que c'est Jean de Blaneau, « Nam Rex Francier, princeps est » ou quelque chose de ce type. Et ce qui se passe en 1254, c'est la concrétisation d'une identification acquise depuis beaucoup plus longtemps. Bouvines pour certains. 1214. 1124 pour d'autres, lorsque l'empereur Henri V, excommunié, tente une entreprise punitive contre la ville de Reims. Je crois que les choses remontent plus haut encore et sont immédiatement postérieures au dernier partage qu'est connu la Francia. Occidentalis. C'est le partage de 880 intervenu entre Louis III et Carloman. C'est un partage qui n'a pas eu de conséquences durables parce que Louis III est mort tout de suite après. En 882, que Carloman est redevenu roi unique. Mais Carloman meurt lui aussi 2 ans après. Et c'est là que les choses me paraissent importantes. Les grands vont éliminer l'héritier légitime, qui est un enfant, et s'adresser tour à tour à Charles le Chauve, Charles le Gros, qui est un descendant de Louis le Germanique, puis à Eudes, un Robertien, qui n'appartient pas à la famille royale. Et je crois que cet appel correspond à la volonté qu'il n'y ait plus de partage. Il faut garantir l'indépendance du royaume. Et intervient alors ce que certains historiens modernes qualifieraient peut-être d'alchimie. Ce sont les mots à la mode où on parlerait d'imaginaire. Pour ma part, je risquerai un mot qui, je l'espère, ne vous choquera pas, monsieur l'abbé. Je parlerai de transsubstantiation. Ce qui ne s'est pas produit pour l'Espagne, ou qui se produira plus tard, n'est-ce pas ? Ce qui n'a été incomplètement acquis pour la Bretagne se manifeste dans ce pays qui reçoit un nouveau nom qui est intimement lié à la langue, à certaines des qualités que doivent avoir les hommes. La franchise. Vous voyez tout ce que l'on peut tirer, n'est-ce pas ? Et ce changement est incarné par le roi sacré.
Je vous remercie vivement, monsieur, pour cet exposé d'une précision, d'une méticulosité bien nécessaire en cette matière. Méticulosité même indispensable, puisque bientôt nous entendrons la communication de M. le professeur Hers Et il sera question d'une nation sans État. Cet après-midi, nous entendrons M. Auger nous parler de nationalisme. Je crois que toutes les précisions que vous nous avez apportées nous aideront grandement. Y a-t-il des questions dans la salle sur la communication que nous venons d'entendre ?
Oui.
Alors vous voyez concrétisé dans un sentiment, non pas dans une loi, mais dans un sentiment populaire, une réaction contre l'invasion.
Oui.
Et bien ceci, je crois que c'est la conclusion de tout ce que vous avez apporté.
Merci, monsieur. Monsieur Vien. Vous appuyez sur le bouton, n'est-ce pas? Voilà. Merci.
Vous savez que j'admire M. Guillotel qui se lance dans les questions de lexicologie, parce que j'ai toujours le sentiment, mais très extérieur, hein, j'ai ma religion est faite par paresse, que le vocabulaire française, même du latin et du grec classique, de nation, tribu, race, est absolument inextricable. Alors je suppose qu'il ne l'est pas dans l'absolu, mais à la limite, on a un sentiment d'une auberge espagnole. Je ne suis pas certain que même un Romain d'époque classique, en priant pour parler aussi bien d'eux-mêmes que des tribus barbares, a une définition extrêmement précise de ces termes-là. Et pourtant, il faut bien essayer de définir. Et comme vient d'être dit à l'instant, j'ai l'impression que c'est le sentiment, enfin, ou la mythique, qui est toujours supralexicale et qui finalement confère au terme un sens ultime. Mais que dans la stricte lexicologie, il y a beaucoup de chances de s'en tirer une solution.
Oui, mais alors, au fond, vous apportez un petit peu d'eau à mon moulin, parce que la conclusion que j'ai proposée, c'est que ces termes, on s'y réfère ultérieurement. Une fois que les pas décisifs ont été franchis, n'est-ce pas ? Et si je me suis lancé quelquefois dans certains exemples un petit peu précis, c'est parce que pour avoir à traduire, à analyser des textes, j'essaye, pour les étudiants notamment, car s'il n'était que de moi, je me référerais uniquement au texte latin, en laissant les choses dans une demi-imprécision, mais dans leur pureté originale. Seulement, il faut leur rendre présentes les choses.
Mais il me paraît que les traducteurs budés, par exemple, d'époque classique, les traducteurs français, sont indifférents à cette distinction. Ils traduisent dans le contexte avunné et par un seul contexte grec. Tribu, nation, peuple. Moi, je prendrai un dernier exemple à propos du peuple juif qui m'intéresse d'un peu près. Depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église, on obtient un emploi absolument indifférent. C'est un peu spécial, comme il est. Race, nation, peuple, tribu. À mon avis, même dans les documents pontificaux, dans une méconnaissance totale de l'acception précise, on ne sait pas à quoi ça se réfère.
Monsieur Golfier, vous voulez appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Merci.